écoutez Radio Orient, il est 17h, le journal Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, Mohamed Ben Salman, reçu aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il est notamment question des crises au Moyen-Orient et du renforcement du partenariat stratégique entre Paris et Riyad. Le bras de fer économique s'intensifie entre Washington et Téhéran. Donald Trump affirme que l'Iran s'effondre complètement avant l'annonce de nouvelles sanctions. Téhéran dénonce un aveu de défaite des États-Unis. À l'approche de la rentrée, les signaux économiques se dégradent en France. 107 milliards d'euros de déficit en 6 mois et un chômage qui repart à la hausse. L'analyse dans cette édition de l'économiste Mathieu Plane. Bonjour. La France reçoit un partenaire stratégique, mais aussi un interlocuteur incontournable au Moyen-Orient. Après un passage remarqué dimanche à Paris pour la finale de l'eSports World Cup, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est reçu ce lundi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une rencontre placée sous le signe du rapprochement entre Paris et Riyad, avec au menu les grandes crises régionales de Gaza à l'Iran, en passant par le Liban et la Syrie, mais aussi le renforcement des liens économiques entre les deux pays. Plusieurs accords doivent être signés dans des secteurs clés. Les enjeux de cette visite avec vous, Inès Gilles.
Et oui, Nadia, le prince héritier saoudien était déjà à Paris hier pour assister à la finale de l'eSport World Cup, une compétition de jeux vidéo symbole du soft power saoudien. Cette compétition organisée pour la première fois hors d'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, place au sujet plus brûlant, puisque Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron président ce lundi la première réunion du Conseil de partenariat stratégique franco-saoudien, créé lors de la visite du président français à Riyad fin 2024. La porte-parole du gouvernement Maud Bréjon a souligné l'importance de cette visite lors d'un question-réponse avec des journalistes ce matin. On écoute Maud Bréjon.
Un certain nombre de rendez-vous, notamment interministériels, sont d'ailleurs prévus en marge de cette rencontre. C'est un moment fort parce que depuis 2 ans, en dehors des sommets annuels du Conseil de coopération du Golfe, le prince héritier d'Arabie Saoudite ne s'est rendu à l'étranger qu'à 2 reprises, en Égypte en octobre 2024 et à Washington en novembre 2025. Et donc sa venue en France aujourd'hui est son premier déplacement d'abord à l'étranger depuis 1 an. Le fait qu'il ait choisi notre pays pour ce déplacement est un signal important. C'est un signal qui témoigne de la profondeur et du dynamisme de la relation franco-saoudienne qui a été construite par le président de la République notamment. Et c'est d'autant plus significatif que cette visite intervient dans un contexte régional, là, encore une fois, vous le savez, particulièrement difficile. Et donc voilà, un moment géopolitique et diplomatique important pour notre pays et pour le lien qui unit nos deux pays.
Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Alors, de quoi vont parler Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman ? Évidemment, de la situation à Gaza et de la solution à 2 États pour Israël et la Palestine. Paris et Riyad sont investis sur ce dossier, puisqu'en juillet 2025, déjà, ils ont co-présidé à l'ONU une conférence internationale visant à relancer la solution à 2 États, avec des engagements sur la réforme de l'autorité palestinienne, le désarmement du Hamas et la sécurité d'Israël. Les deux dirigeants vont aussi discuter du Liban. Une conférence est en préparation pour soutenir les armées libanaises et l'intégrité territoriale du pays. Et puis, bien sûr, la Syrie sera évoquée, tout comme la recomposition des équilibres au Moyen-Orient. Et au-delà des dossiers brûlants dans cette région, l'Arabie Saoudite et la France veulent aussi renforcer leurs liens économiques. Un forum sera prochainement organisé entre grands patrons français et responsables saoudiens autour de divers secteurs comme l'énergie, le tourisme, la culture ou encore l'intelligence artificielle, entre autres. La présidence française est très optimiste. Il y aura beaucoup, beaucoup d'accords économiques dans différents secteurs qui seront signés lundi, a-t-elle assuré. L'enjeu est de positionner les entreprises françaises sur les gigantesques chantiers de la Vision 2030, le plan lancé en 2016 par Mohamed Ben Salman pour diversifier l'économie saoudienne et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.
Merci Inès, pour toutes ces précisions. Les rebelles houthis du Yémen revendiquent l'attaque au missile balistique d'un pétrolier saoudien au large du port stratégique de Yanbu'a en mer Rouge. Le navire a pris feu, mais l'équipage est sain et sauf. Cette attaque s'inscrit dans le blocus maritime annoncé fin juillet par les Houthis contre la flotte saoudienne. Le ballet diplomatique s'intensifie à Téhéran. Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, était attendu ce lundi en Iran, alors qu'Islamabad tente toujours de jouer les médiateurs entre Téhéran et Washington. Demain, ce sera au tour du chef de la diplomatie omanaise de faire le déplacement, avec au cœur des discussions le détroit d'Ormuz. Mascate cherche à négocier une nouvelle voie de navigation dans ce passage stratégique que l'Iran maintient verrouillé tant que les États-Unis ne lèvent pas le blocus imposé à ses ports. Et le bras de fer économique justement se durcit entre Washington et Téhéran. Donald Trump affirme que l'Iran s'effondre complètement à quelques heures de la présentation d'un D-Day économique destiné à couper les dernières lignes de survie du pays. Téhéran dénonce au contraire un aveu de défaite américain et menace de représailles les États-Unis qui se joindraient aux sanctions. Sur le terrain économique, la pression est pourtant forte. Le rial a franchi la barre des 2 millions pour 1 dollar sur le marché noir. Une dégringolade que le gouverneur de la Banque centrale iranienne assure temporaire. Xi Jinping appelle à privilégier la voie diplomatique pour mettre fin à la crise au Moyen-Orient. C'était à l'occasion d'une rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie en visite à Pékin. Le président chinois plaide également pour une solution à deux États au conflit israélo-palestinien et pour le rétablissement de la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'Irak reporte le désarmement des troupes armées pro-iraniennes, initialement fixées au 30 septembre, sans annoncer de nouvelle échéance. Bagdad subit pourtant une pression croissante de Washington pour désarmer ses factions, dont certaines refusent toujours de remettre leurs armes à l'État. Israël a refusé l'entrée sur son territoire à deux eurodéputés suédois de gauche qui souhaitaient se rendre en Cisjordanie occupée à Jérusalem-Est. Les autorités israéliennes leur reprochent leur position hostile et leur accusation contre Israël concernant la guerre à Gaza. Deux casques bleus de l'ONU ont été tués dans une embuscade contre leur patrouille au Soudan du Sud, dans l'état du Jonglei. La mission de l'ONU n'a pas identifié les assaillants dans une région où les combats entre forces gouvernementales et milices d'opposition se sont intensifiés ces derniers mois. L'Ukraine annonce avoir récupéré 10 de ses soldats jusqu'ici portés disparus dans le cadre d'un échange avec la Russie via le Bélarus. Les échanges de prisonniers restent l'un des derniers domaines de coopération entre Kiev et Moscou et le seul résultat tangible de leurs négociations. Le Kremlin accuse Londres de jeter de l'huile sur le feu en aidant l'Ukraine à produire localement des missiles longue portée Scalp. Moscou menace de localiser et de détruire les sites de production et accuse le Royaume-Uni d'empêcher toute avancée vers la paix. La réponse britannique n'a pas tardé. Le nouveau Premier ministre Andy Burnham, en visite à Kiev ce lundi, a promis de continuer à soutenir l'Ukraine en dépit des scandaleuses menaces russes, a-t-il dit. L'Arménie pourrait bientôt déposer officiellement sa candidature à l'Union européenne, annonce de son premier ministre Nikol Pachinian. Un nouveau pas dans le rapprochement d'Erevan avec les Occidentaux et son éloignement de Moscou, qui voit d'un très mauvais œil les ambitions européennes de son ancien allié. Le bras de fer commercial se durcit entre le Canada et les États-Unis. Ottawa riposte aux surtaxes américaines en taxant à son tour plusieurs produits, dont l'acier et les produits laitiers. Une contre-offensive qui fait déjà réagir Donald Trump, menaçant de représailles. Les voitures produites au Canada seront taxées à 50% au 1er janvier 2027. Et puis aux États-Unis, toujours un gigantesque incendie progresse rapidement aux portes de Reno dans le Nevada, poussant plus de 90 000 habitants à évacuer ou à se tenir prêts à partir. Attisés par la sécheresse et les vents, les flammes ont déjà parcouru plus de 6 000 hectares et fait 6 blessés. En France, Sébastien Lecornu réunira son gouvernement en séminaire de rentrée le 31 août. Au programme, le budget 2027, les tensions sur les finances publiques, les cyberattaques de l'été et les conséquences des canicules sur l'agriculture. Raphaël Glucksmann entre officiellement dans la course à l'Élysée. L'eurodéputé a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 et participera en octobre à la primaire sociale-démocrate organisée par le Parti Socialiste et Place Publique avec un objectif affiché, rassembler la gauche et gagner. Mais dès son entrée en campagne, il pose ses conditions. Pas d'accord avec la France insoumise s'il remporte la primaire. Invité hier soir du 20h de TF1, il a appelé la gauche à clarifier sa ligne et à tourner la page de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute.
Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec
Jean-Luc Mélenchon. Mais le Parti Socialiste ne vous a donné aucun engagement pour l'instant.
Tout le monde ne semble pas être d'accord au sein du Parti Socialiste sur cette ligne. Mais moi, je vous le dis, la seule manière pour la gauche de revenir au pouvoir, c'est d'être absolument clair. La gauche française, eh bien, elle ne se prosterne pas devant les dictateurs. Elle ne fait pas des jeux sur les non-juifs dans les meetings. Elle ne fracture pas en permanence la société en surfant sur les fièvres identitaires. Et je vais vous le dire, il faut arrêter d'avoir peur de Jean-Luc Mélenchon.
Donc c'est la primaire qui décidera si c'est avec ou sans Jean-Luc Mélenchon.
Nous verrons quel sera le débat, mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas avoir peur. Et j'aimerais m'adresser à vos téléspectateurs ce soir, en particulier à ceux qui se sentent trahis ou abandonnés par la gauche. Adhérez à ce processus de primaire.
Voilà, c'était Raphaël Glucksmann et premier ralliement de poids pour Raphaël Glucksmann. L'écologiste Yannick Jadot annonce son soutien à sa candidature à la présidentielle 2027. Déjà 107 milliards d'euros de déficit pour l'État français en 6 mois, auxquels s'ajoute désormais l'annonce d'une hausse du chômage. À l'approche de la rentrée politique, les indicateurs économiques témoignent d'une dégradation par rapport à 2025 et illustrent toute la difficulté du redressement des comptes publics. On écoute à ce propos Mathieu Plane, économiste sur le ralentissement de la croissance en France.
Depuis quelques mois, on a un choc lié au prix de l'énergie qui vient impacter directement l'économie française. On le voit à travers la hausse des prix, le rebond de l'inflation est lié notamment au prix du pétrole et donc ça va impacter le pouvoir d'achat des ménages. Et donc leur consommation, la consommation c'est un des moteurs de la croissance. On voit que les entreprises sont assez frileuses aussi pour investir. Et donc on a une croissance sur les 6 premiers mois de l'année en fait qui est proche de zéro. Donc on n'a pas de croissance. Et donc on a une forme de, au mieux de croissance molle, voire de croissance zéro. Or, dans un contexte avec une croissance aussi faible, et avec l'incertitude que vous avez évoquée, les entreprises en fait n'ont pas suffisamment d'activité pour embaucher massivement. Et donc, au mieux, elles maintiennent leurs emplois, et dans certains cas, même, elles vont réduire leurs effectifs. Et donc, forcément, si vous avez peu d'activité, vous créez peu d'emplois, voire même vous en détruisez. Et moins il y a d'emplois, plus il y a de chômage. Et ça, c'est vrai que ça s'est accentué ces derniers mois, mais on est sur cette trajectoire maintenant depuis un peu plus d'un an.
Et le contexte politique, avec la perspective de l'élection de 2027, peut aussi avoir un impact négatif sur ces tendances ?
Oui, alors on a commencé en fait à le voir, cet impact négatif dès, j'allais dire, si on parle d'éléments politiques, depuis la mi-2024 avec la dissolution. Et en réalité, la dissolution, elle a conduit à un éclatement politique assez fort. Et on voit qu'aujourd'hui, il est très difficile, par exemple, d'adopter un budget. Or, un budget, c'est quand même l'ossature financière d'un pays. Et donc, sans budget, il est difficile de se projeter.
Mathieu Plane est l'invité d'Inès Gilles ce soir dans Grand Angle. Après le flash de 18h, un mot de sport pour finir aux Jeux méditerranéens de Tarente en Italie. Le Maroc décroche sa première médaille d'or grâce à Sofiane Alassabi en taekwondo. Le Marocain s'est imposé en finale des plus de 80 kilos face au Croate Ivan Sabina, 2-0. La délégation marocaine compte également 2 médailles d'argent et 1 de bronze dans cette discipline. Et puis basket, l'Euroleague. lance une nouvelle Supercoupe annuelle à 4 équipes, dont la première édition se tiendra les 18 et 19 septembre à Abu Dhabi. L'Olympiakos, le Real Madrid, Fenerbahçe et Dubaï Basketball s'affronteront pour ouvrir officiellement la saison européenne. C'est la fin de cette édition. Merci à Raymond Jouan pour la mise en onde. Prochaine édition en langue arabe à 17h30, ce sera avec Roger Khoury. Excellente suite d'écoute sur Radio Orient.